Ouh, c'était vraiment beau. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Néhémie. Dans le livre de Néhémie. Comme je le mentionnais tout à l'heure, vous avez dans vos dépliants un autre fascicule qui est à l'intérieur, dans lequel j'ai essayé de résumer les principes pratiques qu'on a vus à travers tout le livre de Néhémie. On va les survoler tout à l'heure ensemble. Mais personnellement, j'ai été béni par l'étude de ce livre-là. Et je voulais pas que ça parte aussi rapidement qu'une série de prédications. Et qu'on y revienne seulement dans quelques années, lorsque vous êtes en train de faire votre culte ou une fois par année en lisant le livre de Néhémie, et vous revenez, puis vous dites « Ah oui, il me semble qu'on avait vu des principes pratiques là-dedans. » Alors moi, j'aimerais ça vous encourager à le glisser dans votre Bible pour un certain temps, à mettre ça dans la prière. Si Dieu est en train de travailler certaines choses dans votre vie, considérez tout simplement de reconstruire, guider, accompagné par Néhémie, d'accord? Et c'est vraiment l'idée pour laquelle j'ai pris le temps de préparer ça pour que ça puisse rester là dans vos Bibles, que ce soit quelque chose à méditer, à réfléchir, parce que c'est un défi. Lorsque Dieu place sur notre cœur le fardeau, le désir de reconstruire, c'est un défi. C'est un défi à relever. S'il y en a qui n'ont pas reçu le dépliant, juste lever la main. Là, je vois des têtes qui se promènent. Simplement lever la main, puis les placeurs vont vous en apporter. Oui, ça s'en vient. Juste garder les mains levées. Merci. Alors, ce matin, on termine la série. Et ce qu'on va faire ensemble ce matin, j'ai deux objectifs. Je veux faire deux choses avec vous. Je veux réviser avec vous les principes pratiques qu'on a appris, les mettre dans un ensemble. Un frère m'a partagé pendant la série, il y a tellement de matière qu'il faudrait comme réécouter les prédications. Si ça vous plaît de le faire, vous pourrez le faire. Je vais essayer de résumer tout ça ce matin. Et deuxièmement, je veux placer Néhémie dans... Je veux démontrer dans quelle mesure nous sommes appelés à poursuivre et étendre le mandat que Néhémie avait relevé. D'accord? Deux choses. Revoir ensemble les principes pratiques qu'on peut apprendre de Néhémie pour reconstruire et situer Néhémie pour voir que nous sommes appelés à poursuivre et même à étendre le mandat de Néhémie. Ça va? Vous êtes avec moi dans Néhémie 1. Puis on va aller dans la prière ensemble pour préparer nos cœurs et puis disposer notre esprit à méditer sur ces choses. Père éternel, nous sommes ton peuple ce matin, rassemblés autour de ta parole, autour du précieux nom de Jésus-Christ, qui est venu s'offrir en sacrifice pour que nous puissions, Seigneur, comme âme, comme homme, comme femme, être reconstruits en toi. Père, je veux premièrement t'adorer et reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Comme Néhémie l'a si bien prié, tu es Dieu et tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur chacune de nos vies actuellement, quelles que soient les circonstances, les épreuves qui surviennent, quelles que soient, Seigneur, les bénédictions, les incertitudes qui sont devant nous, tu es Dieu et tu règnes. Tu règnes sur cette terre, Seigneur, à la destinée incertaine lorsqu'on écoute toutes les questions environnementales qui peuvent être tellement inquiétantes, Seigneur. Mais tu règnes et tu continues de régner, Seigneur. De même, tu règnes sur nos vies. Seigneur, nous sommes assemblés ce matin autour de ce livre de Néhémie, un moment crucial dans l'histoire d'Israël où ce peuple s'était éloigné de toi. Et tu as suscité une passion, un fardeau sur le cœur d'un homme et de quelques hommes, Seigneur, Esdras, Néhémie et plusieurs autres autour d'eux. Mais ce fardeau et cette vision de ramener ton peuple auprès de toi, Seigneur, Seigneur, certains d'entre nous ici ce matin ont besoin d'être ramenés auprès de toi. Parce qu'ils t'ont connu, Seigneur, mais comme tu dis dans l'Apocalypse, ils ont perdu leur premier amour, Seigneur. Et ils ont besoin d'être conduits à Dieu, conduits à toi. Je te prie, Père, que cette série porte des fruits à long terme dans leur cœur et dans leur vie. Père, certains d'entre nous ont entrepris de reconstruire parce que tu avais placé sur leur cœur un fardeau, une vision. Je te prie, Seigneur, de fortifier leurs jambes, de fortifier leur cœur, d'affermir, Seigneur, leur conviction et leur foi afin qu'ils aillent jusqu'au bout, Seigneur. Qu'ils achèvent ce qu'ils ont entrepris de faire avec toi. Enfin, Seigneur, tu nous as placés ici à Longueuil comme Église, avec un mandat tellement semblable à celui de Néhémie et en même temps tellement plus grand et plus vaste. Seigneur, donne-nous le cœur de Néhémie. Donne-moi, Seigneur, le cœur de Néhémie. Et que mon cœur puisse être bouleversé comme celui de Néhémie pour cette grande étendue de personnes autour de nous, Seigneur, qui ont besoin de l'Évangile de Jésus-Christ, qui ont besoin d'être conduits à Dieu à leur tour. Père, je te prie d'être avec mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ton esprit ce matin, Seigneur. Je suis disponible, je te demande ta grâce pour que cette prédication soit claire, instructive, Seigneur, mais surtout qu'elle vienne de toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors ce matin, vous allez voir, ça va être un petit peu plus pédagogique, puisqu'on révise l'ensemble des principes pratiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'ambition de faire deux choses avec vous ce matin. De toute façon, j'ai 3 heures devant moi, on termine à midi. On termine à 11h, je sais. Deux choses que je veux faire avec vous. Revoir les leçons pratiques de Néhémie pour reconstruire dans ta vie. Alors, premièrement, c'est dans nos vies qu'on veut le faire, soit dans notre famille, soit dans des relations, des amitiés, des ministères. Donc, premièrement, revoir les leçons pratiques. Et deuxièmement, voir en quoi nous sommes appelés à poursuivre et étendre le mandat de Néhémie. Maintenant, comme on l'a vu, j'espère que vous avez votre conclusion, c'est que le livre de Néhémie est un livre extrêmement pratique. On a vu à travers toute la série des principes simples, pratiques, qu'on peut appliquer quotidiennement pour pouvoir reconstruire dans nos vies. Toujours reconstruire dans le but de reconstruire le témoignage de Dieu, d'accord? Dans différents domaines, qu'il s'agisse de notre relation avec Dieu, que ce soit l'Église de Jésus-Christ, certaines églises ont besoin d'être reconstruites au complet parfois, parce qu'à travers des dizaines d'années, à travers des décennies, l'Église s'est refroidie. Et lorsqu'on lit l'Apocalypse, on rencontre des églises qui ont pratiquement besoin d'être reconstruites au complet, afin que le témoignage de Dieu soit ramené là. Mais ça peut être aussi dans votre couple, dans vos relations de famille, dans vos rapports avec vos enfants, dans des amitiés. Ça peut s'appliquer dans nos finances personnelles, ça peut s'appliquer dans notre témoignage personnel, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. Les relations de travail, tout simplement. Les principes de Néhémie s'appliquent dans tous ces domaines-là. On peut les appliquer concrètement et pratiquement dans tous ces domaines. Ça peut être dans le ministère dans lequel vous êtes engagé dans l'Église, dans lequel vous êtes impliqué. Une des choses qui est importante de retenir, je l'ai mentionné au début de la série, ce sont des principes spirituels qui cherchent à rétablir le témoignage du nom de Dieu. Ce serait vraiment faire offense à Néhémie que de prendre ces principes-là pour les transformer en principes de croissance personnelle. D'accord? Au fondement de la démarche que Néhémie entreprend, ce qu'il veut rétablir, c'est le témoignage du nom de Dieu à Jérusalem. Un des principes fondateurs de tout son projet, c'est la prière. Constamment, Néhémie baigne son projet dans la prière, d'accord? Alors, prendre les principes pratiques de Néhémie pour en faire des principes uniquement de leadership, des principes de croissance personnelle, des principes que je vais appliquer dans le but de satisfaire une ambition personnelle qui ne servirait pas à rétablir le témoignage du nom de Dieu, la gloire de Dieu dans mon couple, dans mon foyer, dans des amitiés, dans l'Église, dans un ministère, dans un champ de mission. Récupérer ça, séculariser ça. Écoutez, ça demanderait de séculariser la prière. Essayez de penser à ça. Comment on fait pour séculariser la prière? Parce que prier, c'est parler à Dieu. Je veux dire, séculariser la prière, c'est tuer la prière. C'est abandonner Dieu, c'est quitter Dieu. Si vous prenez les principes de Néhémie, vous les appliquez pour des ambitions personnelles, ce sont des principes sages, vous allez vous rendre à quelque part, mais vous n'accomplirez jamais la moitié de ce que Néhémie a accompli. Parce que voyez-vous, Néhémie a accompli cela en s'appuyant sur Dieu. Et ce qu'il cherchait, ce n'était pas l'accomplissement de ses ambitions personnelles. Au contraire, ça lui a demandé des sacrifices énormes. Mais ce qu'il cherchait, c'était à rétablir, à ce que le témoignage du nom de Dieu soit rétabli à Jérusalem dans ce cas-ci. Et donc ça, c'est important de garder ça à l'esprit. Ce que vous devez déterminer d'abord et avant tout, si vous voulez utiliser les principes de Néhémie, c'est où est-ce que Dieu vous appelle à rétablir le témoignage de sa gloire? Simplement situer Néhémie dans l'histoire. C'est important parce qu'à la fin, lorsqu'on va avoir revu les principes pratiques, je veux qu'on voit ensemble le mandat de Néhémie. Et pour bien saisir le mandat de Néhémie et en quoi nous sommes appelés, nous, à poursuivre son mandat, il faut le situer dans l'histoire. Lorsque Néhémie intervient des siècles après que Dieu ait fait une alliance avec Israël. D'accord? Toute cette aventure-là de Néhémie, toute son intervention repose sur une chose premièrement. Dieu a établi une alliance avec Israël. Dieu a traité une alliance avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est plus comme le reste des peuples sur la terre. C'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu l'a invité et parce que le peuple a embrassé cela. Il a embrassé l'alliance et il est devenu, par son choix propre, à l'invitation de Dieu, peuple de Dieu. Donc, il y a une alliance de traité entre Dieu et son peuple. Maintenant, Dieu avait établi des principes dans son alliance. Selon ces principes, Dieu allait être fidèle, Dieu allait protéger, Dieu allait pourvoir, Dieu allait bénir et Israël allait être fidèle aux préceptes de Dieu, aux principes de Dieu. Allait marcher à l'image de Dieu, ressembler à son Dieu. Israël était là pour porter le nom de Dieu parmi les nations. Porter le nom de Dieu sur la terre. C'est ça le rôle d'Israël, en gros. L'Éternel avait prophétisé, avait annoncé qu'Israël ne serait pas toujours fidèle à son alliance. Qu'Israël se détournerait et ce que Dieu avait annoncé s'est accompli. Et Israël s'est tourné vers d'autres dieux et a commencé à adorer d'autres dieux et à adopter le style de vie de ces autres divinités, de ces autres peuples, ces pratiques païennes qui, même plusieurs d'entre elles, à nos yeux, seraient profondément offensantes, qu'on soit chrétien ou non. Mais au moment où Néhémie vient, Israël a été châtié. Parce qu'Israël s'était détourné de Dieu, Israël s'était éloigné de Dieu, s'était tourné vers ses pratiques païennes. Ils avaient toutes sortes de pratiques abominables qui ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu, tel qu'il l'avait annoncé, a châtié Israël. Il les a châtiés en les déportant. Il les a placés sous la domination d'autres peuples. Là, je suis en train de vous raconter de l'histoire. Et si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, je suis en train de vous raconter l'histoire telle que les historiens vous la raconteraient avec une perspective divine. Mais on parle d'événements historiques qui se sont produits. Israël, finalement, a été dominé, a été déporté. Et Dieu avait annoncé cela. Mais Dieu avait annoncé qu'un jour viendrait où il restaurerait son peuple. Et je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe. Un des livres des grands prophètes, un livre plus volumineux de l'Ancien Testament, Ésaïe au chapitre 10. Une des choses que vous devez savoir avec la Bible, il y a 66 livres dans la Bible et ils ne sont pas toujours placés dans l'ordre dans lequel les événements se sont produits, d'accord? Alors, Ésaïe a annoncé avant que Néhémie vienne. Voici une prophétie dans Ésaïe 10. Ésaïe était un prophète. Un prophète, c'était un homme comme vous et moi, qui était saisi par l'Esprit de Dieu et qui annonçait des choses. souvent s'adressaient au peuple de Dieu pour le ramener à Dieu, mais qui prophétisaient. Je sais, c'est des choses étranges pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Écritures, et pourtant, lorsqu'on s'applique à les étudier, il y a des phénomènes vraiment inexplicables. Sinon, de reconnaître que Dieu est là et que Dieu se manifeste à travers sa parole. Dans Ésaïe chapitre 10, voici ce qu'on lit au verset 20. Ésaïe prophétise, voici ce qu'il dit. « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. » Ésaïe le prophète avait annoncé qu'il y aurait un retour de l'exil. Qu'au moment du retour de l'exil, quand bien même le peuple d'Israël serait encore innombrable, un reste seulement reviendrait, crierait à l'Éternel là où ils sont dans la déportation, supplierait Dieu de les délivrer et Dieu les ramènerait à Jérusalem. Et ce serait non seulement un retour à Jérusalem, mais un retour au Dieu puissant, un retour de cœur à Dieu. D'accord? Lorsque Néhémie arrive dans l'histoire, Néhémie entre dans cette œuvre qui a été commencée de retour de l'exil. Et donc, sous Esdras, sous d'autres leaders, le retour de l'exil a commencé. Néhémie entre dans cette œuvre-là. Et il se rend à Jérusalem avec l'objectif, premièrement, de reconstruire les murs de Jérusalem. Son objectif à travers ça est de restaurer le témoignage de Dieu à Jérusalem, parce que c'est bouleversant pour lui, c'est une honte de réaliser que la ville sainte qui a été choisie par Dieu, là où son nom devait régner, devait être honoré, cette ville est sans protection, à la merci des pillards. Et donc, Néhémie se rend à Jérusalem avec sur son cœur un fardeau, une vision, reconstruire les murs de Jérusalem. Mais on a vu à travers le livre aussi que Néhémie avait un projet beaucoup plus ambitieux que de reconstruire des murs physiques. Il se rend à Jérusalem pour ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. Et c'est ça qu'on lit dans Ésaïe, d'accord? Le reste d'Israël reviendra vers le Dieu puissant. C'était le mandat, c'était la vision que Dieu avait placée sur le cœur de Néhémie, ramener le peuple d'Israël vers Dieu, le ramener à Dieu. On va survoler ensemble les principes pratiques qu'on a vus à travers le livre, d'accord? Et à la fin, je vais terminer avec cette question du mandat qui a été donné à Néhémie pour voir ensemble comment on est appelé à poursuivre ce mandat. Je vous invite à prendre les feuillets que je vous ai donnés et peut-être à les annoter. Là, ce que je vais faire un exercice très, très, très rapide. Je vais survoler littéralement le livre de Néhémie puisqu'on a passé une douzaine de semaines ensemble dedans. Je vais vous demander de me suivre très rapidement, d'accord? Et si vous avez assisté à toutes les prédications, vous allez voir que j'ai mélangé certaines prédications parce que j'ai voulu résumer ça dans un principe simple et pratique. Ce qu'on a vu ensemble pour commencer avec Néhémie, c'est qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de projet pour reconstruire le témoignage de Dieu sans qu'il y ait premièrement un cœur qui va se laisser bouleverser par Dieu. Tout le livre de Néhémie commence par un cœur qui est bouleversé. Ça commence sur une histoire de ruine, vous vous rappelez? Néhémie entend des nouvelles, reçoit des nouvelles de Jérusalem et il entend que les murailles sont en ruine et son cœur est bouleversé. Sans ce premier cœur bouleversé, il n'y a absolument rien qui se passe. Néhémie aurait pu recevoir ces nouvelles comme plein d'autres gens avaient reçu des nouvelles. Songez-y, les gens qui étaient là-bas dans la capitale, dans la déportation, s'écrivaient des lettres avec les gens qui étaient à Jérusalem, recevaient des lettres. Et il y avait des gens probablement tous les mois qui recevaient du courrier qui leur disaient « Les murailles sont en ruine, ça va mal. » Et la majorité des lecteurs disaient « Merci Seigneur que je ne sois pas à Jérusalem actuellement. » Bon, qu'est-ce qu'on a mangé pour souper ce soir? Tout a commencé par un cœur qui s'est laissé bouleverser. Et sans ce cœur bouleversé par la condition de Jérusalem, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Tout s'arrête là. Il fallait une personne qui se laisse bouleverser pour que ça commence à bouger. Et Dieu est en train de faire une œuvre dans ce bouleversement-là. Ce n'est pas simplement lui qui est à l'œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre dans son cœur. Il lui a donné un cœur et des yeux pour voir, pour prier et pour agir. Alors, si vous êtes dans une situation actuellement complètement apathique et vous voyez des ruines, mais votre cœur est indifférent, commencez par prier pour que Dieu attendrisse votre cœur. Commencez par prier pour que Dieu attendrisse votre cœur. Deuxièmement, l'action commence par la prière. On a vu ensemble que Néhémie a passé 4 mois dans la prière, 4 mois à prier. Pendant qu'il est dans un poste d'autorité, un poste d'influence, les ruines continuent à être négligées, les gens continuent à être pillés, la ville continue à être abusée, mais l'action commence dans la prière. C'est un projet immense et Néhémie est conscient qu'il va avoir besoin que ce projet soit accompagné, appuyé, précédé par Dieu. Néhémie va passer 4 mois dans la prière. 4 mois de larmes, de prière, de confession, d'adoration, d'intercession. Et comme on l'a vu ensemble, au moment où le roi va lui dire « Qu'est-ce qui se passe, Néhémie, avec toi? » On réalise à ce moment-là que pendant ces 4 mois-là, Néhémie était aussi en train de planifier. Parce que toutes les réponses... Il n'est plus simplement à l'état de bouleversement. Il n'est plus simplement en train de pleurer et de dire, « Mais voyons, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal à Jérusalem! » Non, pendant ces 4 mois-là, Néhémie est en train de réfléchir aussi. L'action commence dans la prière. C'est là que ça commence. Combien de temps Dieu veut-il que tu passes dans la prière avant de passer à la prochaine étape? Tu vois une situation, ça te bouleverse, ça brasse ton cœur. Il faut faire quelque chose. Combien de temps est-ce que Dieu veut que tu passes dans la prière? Je pense qu'un principe de sagesse qu'on peut tirer ici, ce serait au moins jusqu'à ce que ta prière ressemble à celle de Néhémie. Sa prière était une prière qui reconnaissait que Dieu règne, que Dieu est Dieu malgré les circonstances. Sa prière était une prière qui reconnaissait que Dieu est saint et que Dieu est juste, malgré toute la souffrance qu'il y a sur la terre. Sa prière reconnaissait la responsabilité des hommes dans ces circonstances. Et donc, il a passé beaucoup de temps dans la confession. Voyez-vous, on n'est pas dans une prière qui dirait « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Bouge! Ça se peut pas! Pourquoi est-ce que tu permets ça? Est-ce que tu es un Dieu juste? » Sa prière n'est pas là. Sa prière croit dans la souveraineté de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, passe par la confession, reconnaît les fautes des hommes. Mais sa prière n'est pas non plus désespérée, elle est remplie de foi. Elle est dans l'attente de ce Dieu gracieux. On entend dans sa prière quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu aies la conviction que tu saisis bien la grâce de Dieu, que tu t'es rappelé combien de fois Dieu a opéré sa grâce dans ta vie. Combien de fois Dieu a été gracieux envers toi et a restauré. Puis à un certain moment donné, tu vas savoir que c'est le moment de passer à l'action. Je n'ai pas plus de réponse que ça pour toi. Mais au moins, attends que ta prière ressemble à celle de Néhémie. Parce que ça va être une prière selon Dieu. Ça va être une prière qui va glorifier Dieu. Troisièmement, il y a un temps pour tout risquer. On a vu ensemble que Néhémie a été prêt à risquer une position vraiment importante. Premièrement, on ne se présentait pas devant le roi avec le visage triste. Néhémie lui dit lui-même, au chapitre 2, verset 1, il dit « Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence, parce qu'on ne faisait pas ça. » Néhémie avait un poste extraordinaire et il va risquer son poste. Probablement qu'il risque même sa tête en arrivant avec ses requêtes. Requêtes qui pouvaient être interprétées comme « Tu voudrais aller à Jérusalem pour reconstruire des murs? Est-ce que vous êtes en train de faire un complot pour restaurer le pouvoir politique de votre ville? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à vous détacher de mon royaume? » Le roi aurait pu lire toutes sortes de choses dans la requête de Néhémie. Mais nous avons vu ensemble qu'il faut être prêt à tout risquer à un certain moment. Si vous voulez reconstruire, il va y avoir des risques à prendre. Ça peut être au niveau des relations. Ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques d'investir une somme énorme de temps qui ne portera peut-être pas de fruits. Mais si vous voulez reconstruire, il y a un certain moment où c'est le temps de tout risquer pour reconstruire, d'avancer, de quitter cette zone de confort, parce qu'on peut être confortable dans les ruines. On peut être confortable assis au milieu des ruines. Ah, c'est un peu inconfortable. C'est assez triste et pathétique chaque matin quand on se lève, mais vous savez, on est capable de s'accommoder de beaucoup de choses. Mais on a vu ensemble avec Néhémie, il faut être prêt à tout risquer pour reconstruire. Quatrièmement, comment savoir comme Néhémie que mon projet me vient de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose de particulier. À un certain moment donné, Néhémie n'est plus en train de parler simplement de son projet, il est en train de parler du projet que Dieu a placé sur son cœur. Chapitre 2, verset 12, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Néhémie a eu des nouvelles, il a commencé à pleurer, il a commencé à prier et à un certain moment donné, Néhémie avait une conviction profonde sur son cœur. Ce projet-là, ce n'est pas seulement mon projet, ce n'est pas seulement le projet d'un homme, c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui l'a placé sur mon cœur. Et ça, c'est précieux lorsque tu te lances dans un projet de reconstruction, de savoir que ce n'est pas simplement toi qui es en train d'avancer. Rappelez-vous la prière de Moïse. Éternel, si tu n'avances pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, on ne veut pas bouger d'ici. Comment est-ce que je fais pour savoir que le projet que j'ai me vient de Dieu? Je vais commencer par la prière. Je vais baigner ça dans la prière. Je vais placer ça dans la prière. J'ai ce fardeau sur mon cœur, je vais être prêt à le nourrir dans la prière. Je vais regarder à Dieu en reconnaissant que Dieu est souverain, que Dieu règne et qu'il est là, qu'il est Dieu malgré tout. Si le projet que vous avez sur votre cœur, c'est d'aller sauver quelqu'un de Dieu, parce que Dieu n'est pas à son affaire, ce n'est pas un projet qui vient de Dieu. Pas encore, en tout cas. Placez-le dans la prière. Personne n'a besoin d'être sauvé de Dieu. Dieu n'a échappé aucune balle. Dieu n'est pas distrait. Et Dieu n'a pas besoin de moi pour que je sauve son royaume. C'est lui le sauveur. Alors, je vais aller dans la prière en regardant Dieu, en reconnaissant que Dieu est Dieu malgré tout. Avec humilité, je vais aller dans la confession. Et on a vu ensemble avec Néhémie que je peux confesser mes péchés, mais je peux confesser ceux de ma famille, je peux confesser ceux de mon église, je peux confesser ceux de mon peuple. Je peux confesser les péchés des Québécois parce que je me place dans une position d'intercesseur. Et je veux voir les choses comme elles sont. En cherchant les promesses de Dieu dans sa parole pour pouvoir intercéder et pour pouvoir m'assurer que mon projet est en conformité avec la parole de Dieu. Alors, je vais sonder les Écritures. Néhémie cite les Écritures à Dieu. Néhémie dit à Dieu, « Dieu, tu avais donné des promesses. Tu avais promis que tu restaurerais si ton peuple crie à toi. Je crie à toi, ô Dieu. » Et Néhémie se met à prier, littéralement, des textes du Deutéronome. Je vais donc sonder les Écritures, sonder la parole pour voir si ce qu'il y a sur mon cœur est conforme avec la parole de Dieu. Je vais planifier, je vais réfléchir à mon projet. Je vais être prêt à prendre des risques et à plonger. Et au fur et à mesure que Dieu va ouvrir les portes, il y a une conviction profonde qui va s'installer dans mon cœur. C'est comme ça que je suis rentré dans le ministère pastoral. C'est comme ça que j'ai cherché la face de Dieu pour choisir mon épouse et me marier avec Esther. C'est comme ça qu'on a avancé dans plein de projets, d'accord? Tout simplement en suivant ces principes-là, baigner constamment dans la prière. Et à un certain moment donné, il y a une conviction profonde qui est là. Lorsque les obstacles, l'opposition, les attaques viennent, on est capable d'y faire face se reposant sur Dieu parce qu'on sait qu'on a fait les choses selon Dieu. Et j'ai cette conviction que mon projet me vient de Dieu. Cinquièmement, on a vu ensemble avec Néhémie qu'il va toujours y avoir de l'opposition. Et Néhémie a fait face à de l'opposition. S'il y a quelqu'un qui a fait face à de l'opposition, c'est lui. Constamment de l'opposition à l'extérieur des ennemis d'Israël, de l'opposition à l'intérieur des jeux politiques entre les gens, des gérants d'estrade qui sont là et qui veulent juste pas qu'il y ait quelqu'un qui lève la tête un peu plus haut que les autres. Toutes sortes d'oppositions, il va toujours y avoir de l'opposition. ne serait-ce parce que tu as un projet spirituel sur ton cœur. Puis il y a des gens autour de toi qui se sentent jugés par ton projet. Il y a des chrétiens autour de toi qui te regardent aller puis qui disent « Ah, come on, c'est dérangeant tes affaires. » Des chrétiens qui me disent « T'es pas sérieux. » Faut vraiment entreprendre ça. Je comprends. Il va toujours y avoir de l'opposition. Il va toujours y en avoir. Ce qu'on a appris ensemble avec Néhémie à l'égard de l'opposition, écoute les plaintes avant d'y voir de l'opposition. Vous vous rappelez, Néhémie avait un angle mort. Il y avait de l'injustice au milieu du peuple. Il y avait des gens qui étaient appelés à faire des sacrifices plus grands que les autres. Les plus pauvres étaient abusés par les plus riches dans le processus de reconstruction des murs. Et donc, ces plaintes-là n'étaient pas de l'opposition. C'était vraiment un appel à l'aide. Et une erreur qu'on peut faire dans un projet semblable, c'est de voir toutes les plaintes comme de l'opposition. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, vous n'êtes pas Dieu et vous avez des angles morts et il y a des choses que je ne vois pas lorsque je suis en train d'avancer. Il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule puis « Hey, veux-tu me laisser tranquille? Je suis en train d'avancer! » Non, sois humble, mon ami. Peut-être qu'il y a des morceaux que tu n'as pas vus, là. Puis tu es en train de faire mal à du monde dans ton projet. Et Néhémie a eu cette humilité de s'adapter, de s'ajuster. Alors, écoute pour voir tes angles morts. Tourne-toi vers Dieu plutôt que vers tes opposants. À un certain moment donné, Néhémie s'est mis les deux mains sur les oreilles puis s'est mis à crier des prières. Il n'a plus rien à entendre des opposants. Il avançait avec Dieu. Il n'avait pas d'attention à donner outre mesure aux opposants qui sont des opposants. Ceux-là sont juste là pour te distraire. T'as écouté, c'est pas des angles morts, c'est des chialeux. On connaît ça au Québec, des chialeux. C'est des opposants, c'est des gens qui n'ont pas une perspective spirituelle de ce que tu es en train de faire. T'as cherché la face de Dieu, avance. Arrête de porter attention, de prêter attention aux opposants. Mais ça va être lourd. Ça va être lourd parce qu'il va y avoir des moments où tu vas avoir l'impression que tu es incompris, que personne autour de toi comprend, quelques personnes, mais il y a un sentiment d'isolement lorsqu'on veut reconstruire. Je vous le dis, c'est constant. Alors, on a vu ensemble avec Néhémie, va te vider le cœur dans la prière. Va dans la prière, vider, répandre ton cœur devant Dieu. Si tu essaies juste d'encaisser ça, ça devient trop lourd à porter. Apprends comme Néhémie à aller dans la prière et simplement répandre ton cœur. Néhémie va jusqu'à faire des imprécations. Rappelle-toi d'eux, Seigneur. Rappelle-toi d'eux. Je suis en train de marcher avec toi, Seigneur. Prie Dieu pour qu'il te protège et prie pour tes ennemis comme Christ nous a enseigné. Mets tout ton cœur dans le projet que Dieu a mis devant toi. Avance, fonce. Il va y avoir de l'opposition. Sixièmement, fatigue de mi-parcours. À un certain moment donné, le peuple commence à être fatigué. Et dans n'importe quel projet de reconstruction, il va y avoir une fatigue qui va s'installer. C'est long. Combien d'années pour Néhémie? Plus de 12 ans de travail. D'accord? Alors, je ne sais pas quel projet Dieu peut placer sur votre cœur, mais selon toute probabilité, vous ne devez pas compter ça en semaine ou en mois. Vous ne pouvez peut-être pas compter combien de temps ça va prendre. Et il va y avoir une fatigue de mi-parcours qui va s'installer. C'est normal. On peut l'anticiper. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a fait face aux obstacles. Il n'a pas essayé de les nier, il n'a pas essayé de les éviter. Il a fait face aux obstacles et il a fait les ajustements nécessaires. On a vu ensemble avec Néhémie que je dois me rappeler dans ces moments-là qui je suis en train de servir. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Néhémie était en train de servir Dieu, premièrement. Et deuxièmement, Néhémie était en train de servir le peuple d'Israël. Quand la fatigue de mi-parcours va rentrer, rappelez-vous qui vous êtes en train de servir. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris cela? Pour Dieu, premièrement. Et deuxièmement, c'est qui? Votre famille? Votre couple? Vous êtes dans un ministère, vous êtes impliqué à la bouffe pour tous. Ce sont pas les gens que vous voulez servir. Il va y avoir une fatigue de mi-parcours qui va être là. Vous êtes impliqué dans un petit groupe. Vous avez à cœur de voir ces gens-là grandir spirituellement. Il va y avoir une fatigue de mi-parcours qui va s'installer. Rappelez-vous que vous êtes en train de servir Dieu. Et rappelez-vous pour qui vous le faites, pour ces gens que vous voulez aider. Pour vos enfants à qui vous voulez léguer un témoignage spirituel, pour votre famille que vous voulez gagner à Christ, pour vos collègues de travail que vous voulez voir venir à Jésus-Christ. Rappelez-vous qui vous êtes en train de servir. Et enfin, donnez l'exemple. Donnez l'exemple. C'est à vous que Dieu a donné ce projet-là. Donnez l'exemple. Avancez avec le projet. C'est à vous que Dieu l'a donné. Pas aux autres personnes autour, c'est à vous que Dieu l'a donné. Septièmement, on a vu ensemble que toute reconstruction faite avec Dieu peut ouvrir la voie pour une reconstruction beaucoup plus profonde. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le livre. Ça commence avec une histoire de mur. Ça ne peut pas être plus concret que du concrete, n'est-ce pas? C'est un mur qu'on est en train de bâtir. C'est très terre-à-terre comme situation. Il y a des méchants qui rentrent, on va aller barrer la porte. C'est pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? On change de porte parce qu'elle se fait défoncer tous les matins. OK, c'est pratique, c'est concret. On a besoin de pouvoir dormir la nuit sans avoir des brigands qui rentrent. On a besoin de pouvoir bâtir des choses ensemble. La sécurité, c'est simple. Attache ta ceinture. Ça finit là. Mais c'était tout un projet, c'était énorme comme projet. Et une des belles choses qu'on voit à travers le livre, c'est que ces projets-là, lorsqu'ils sont menés avec Dieu spirituellement, ouvrent souvent la porte à des reconstructions beaucoup plus profondes. Parce qu'on voit ce que Dieu fait, parce qu'on voit Dieu bénir. Et une des choses que j'avais mentionnées ce matin-là, c'est ne méprisez pas les petits commencements. Si Dieu a placé sur votre cœur de prendre des vacances en famille, ne mettez pas ça de côté en disant « Ouais, mais c'est pas très spirituel, il faudrait qu'on passe 2 heures de prière en famille chaque matin. » C'est vrai que ce serait bien de passer 2 heures de prière en famille chaque matin, mais peut-être que c'est bon de commencer par prendre une sortie de couple à chaque semaine ensemble. Ou simplement ouvrir votre Bible le matin et prendre 5 minutes dans la parole de Dieu. Ne méprisez pas les petits commencements. Les murs de Jérusalem, dans ma perspective à moi, c'était bien peu de choses. Envoie un bon gérant, on va reconstruire ça, ces murs-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit après. Et c'est ça qui se passe dans Néhémie. Il y a un effet d'entraînement, ça devient contagieux. Et il y a une soif de Dieu qui jaillit parmi le peuple. Néhémie pleure pendant 4 mois, intercède pendant 4 mois. Et ça va avoir une portée, un impact spirituel dans la vie du peuple d'Israël. Alors, toute reconstruction que vous êtes en train d'entreprendre, dans votre foyer, dans votre vie, tu dis, ouais, mais il n'y a personne dans la maison chez nous qui veut prendre du temps avec Dieu. Commence. Vas-y, fonce. Fais-le. Tu n'as pas besoin que les autres soient là. Peut-être que Dieu va se servir de toi pour faire quelque chose. À travers les dernières années, on a vu Dieu faire des belles choses dans la jeunesse. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par 1 jeune, 2 jeunes, 3 jeunes qui se consacrent, qui arrivent en avant puis qui donnent son témoignage avant de se faire baptiser. Puis Dieu commence à parler à d'autres cœurs. C'est vrai, hein? On a assisté à ça dans l'Assemblée, on l'a vu ensemble. Ça a commencé par une reconstruction. Par un jeune qui dit, moi j'arrête de gambler. Par un jeune qui dit, moi j'arrête de consommer. Par un jeune qui dit, moi je veux juste donner mon cœur à Christ. Puis j'abandonne ces niaiseries-là. Puis boum! Ça en inspire d'autres, ça en invite d'autres. Et ça devient contagieux, cette affaire-là. Dieu travaille généralement comme ça. Toute reconstruction avec Dieu peut ouvrir la voie pour une reconstruction beaucoup plus profonde. Et on voit dans le livre de Néhémie cette foi, soif de Dieu qui se répand. Huitièmement, lorsque Dieu veut faire un travail en profondeur, ça va passer par sa parole. Et lorsqu'on arrive au chapitre 8, 9, on voit Israël qui va dans la parole de Dieu pour aller vers une reconstruction qui est beaucoup plus sérieuse. Ils vont lire la Bible, ils vont confesser, ils vont adorer pour s'examiner. Ils vont passer littéralement des heures et des heures à lire la parole de Dieu. Vous vous rappelez ces scènes, hein? Tout le peuple est assemblé, on commence au lever du jour. C'est pas 1h30, le culte, 1h45, le service, pas ça, là. C'est tout le monde s'installe ici, pas d'air climatisé, les mouches volent, puis il y a quelqu'un qui est en avant qui commence à lire la Bible. Puis le peuple dit, come on, les leaders, là, ouvrez la parole de Dieu, on veut l'écouter, nous autres, come on! Monte en estrade, commence à lire la parole, des heures de temps. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi il a dit ça? Souvent, je lis les Écritures avec les enfants, puis Bastien, il dit, papa, j'ai rien compris. Ben, c'est ça qui s'est passé. Fait que là, il y a des docteurs, des enseignants, des scribes qui commencent à se promener parmi le peuple. Puis, évidemment, il n'y a pas des porte-voix, des PowerPoint, les acétates, les petits feuillets. D'accord? Alors, ils se promènent parmi le peuple. Des milliers de personnes commencent à expliquer la parole. Et Dieu fait une œuvre. Et au moment où ils vont dans la prière, Israël a été instruit par la parole de Dieu, regarde son histoire et dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? se rappelle de son histoire. Et il a dit, voilà notre histoire. Dieu nous avait sortis d'Israël. Dieu nous avait bénis. Dieu nous avait donné la terre promise. Et on s'est écarté de l'Éternel. Et c'est instruit par la parole de Dieu qu'on a cette prière extraordinaire. Extraordinaire. Où il est répété fois après fois la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple de Dieu. Et ce qui ressort au fur et à mesure qu'on lit cette prière, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu aime son peuple. Fait grâce et restaure son peuple. Constamment. Et ce processus-là va se terminer par un renouvellement de l'Alliance. Israël va renouveler ses vœux. Hommes, femmes et enfants, tous ceux qui sont en âge de comprendre, vont renouveler leurs vœux envers l'Éternel et ils vont passer à l'action immédiatement et concrètement. Ça ne demeure pas que des vœux pieux. Ça ne demeure pas que des vœux pieux. Ce n'est pas une grande journée de braillage. Une grande journée à brailler et à dire « Oh oui, moi je m'avance ce matin en avant là, parce que le pasteur va appeler. » Non, ils passent à l'action. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire le lendemain. Ils savent déjà les choses à mettre en place à Jérusalem. Ils vont mettre des leaders. Ils vont mettre des leaders spirituels. Et le livre de Néhémie se termine d'une drôle de manière. Parce que Néhémie s'absente quelque temps, puis il revient à Jérusalem, et il y a déjà des choses qui sont négligées. Et je résumerai la fin du livre de Néhémie ainsi. Le 9e principe, jusqu'au retour de Christ, ne prenez rien pour acquis, soyez vigilants et faites le ménage régulièrement. Ça se termine comme ça, Néhémie. Pendant la série sur Néhémie, je relisais souvent à partir du chapitre 1, puis je voyais tous les passages où j'étais rendu, puis j'avais lu Néhémie au complet avant, mais c'est comme si j'évoluais tranquillement avec Néhémie, puis à la fin, je me préparais dans les dernières prédications, puis là, je lis le dernier chapitre, puis boum! J'ai eu un gros, gros down. J'ai eu un gros down pendant une heure. J'ai dit, non, mais Néhémie a fait tout ça. Là. Il s'absente quelque temps, puis il revient, puis c'est déjà en train de déraper cette affaire-là. Et c'était un rappel. Un rappel, tout simplement, jusqu'au retour de Christ. Soyez vigilants. Ne prenez pas les choses pour acquis. Faites le ménage constamment. Notre nature pécheresse demeure et elle est là et elle est constante. Frères et sœurs, j'espère que ces principes pratiques-là ne vont pas être simplement oubliés. J'espère qu'ils vont être disponibles dans votre Bible, pas loin de vous, dans votre cœur. Et lorsque Dieu va bouleverser votre cœur, vous allez travailler consciencieusement pour reconstruire. Que tout ceci ne restera pas, ne demeurera pas que des vœux pieux. Maintenant, je veux terminer ce matin en faisant une chose. On a commencé tout à l'heure en replaçant le livre de Néhémie dans son contexte historique. Néhémie intervient après l'exil, après la déportation. Il y a une prophétie qui est donnée par le prophète Ésaïe, plusieurs prophéties en fait par différents prophètes, mais on en a lu une. Promesse que Dieu allait restaurer Israël et ramener à Jérusalem, restaurer Israël. D'accord? Cette prophétie est en train de s'accomplir au moment où Néhémie est en train de servir. Il participe à l'accomplissement de cette promesse. Dieu avait donné un mandat à Néhémie. On a vu ensemble que ce n'était pas simplement un fardeau sur son cœur, mais c'est Dieu qui avait donné ce mandat à Néhémie. Et son mandat, c'était simple, reconstruire les murs de Jérusalem et travailler à ramener Israël à Dieu. On peut résumer le mandat, le fardeau que Dieu avait placé sur le cœur de Néhémie comme ça. Reconstruire les murs de Jérusalem et travailler à ramener Israël à Dieu. Maintenant, écoutez bien ceci. Le mandat de Néhémie était limité essentiellement à Israël. Tout tourne autour de Jérusalem. Vous remarquez? C'est le peuple d'Israël qu'on ramène à Jérusalem, la ville sainte. Le mandat de Néhémie était limité essentiellement à Israël. Notre mandat à nous s'inscrit dans la continuité avec le mandat de Néhémie, mais il est infiniment plus vaste que celui de Néhémie. Beaucoup plus vaste que celui de Néhémie. Le rôle de Néhémie était de prendre le peuple d'Israël et de ramener son cœur à Dieu. Ça commençait par des murs, ensuite c'était par le culte, c'était par les célébrations, c'était par la confession. Son mandat était de ramener le peuple de Dieu à Dieu, de les réconcilier avec leur Dieu. Notre mandat à nous s'inscrit dans la continuité, mais il est beaucoup plus vaste que ça. Revenez avec moi dans Ésaïe, s'il vous plaît. Et je sais qu'il y a peut-être quelques personnes ce matin qui vont trouver ça plus difficile de me suivre, puisqu'on... Je m'en vais dans quelques textes prophétiques et vous n'êtes peut-être pas familier avec ça. Mais je veux terminer la série en plaçant le mandat de Néhémie en perspective avec le nôtre, avec tout ce que cette Église fait, avec tout ce que nous entreprenons et avec tout ce que l'Église universelle est en train de faire actuellement partout sur la terre. Dans Ésaïe chapitre 10, on a vu ensemble une prophétie, d'accord? Dieu avait annoncé par son prophète qu'il allait restaurer Israël. C'est intéressant, le chapitre suivant, il y a un texte qui va être obscur pour ceux qui ne sont pas familiers avec les prophéties, je suis désolé, je vais essayer quand même de le commenter très brièvement. Mais au chapitre 11, il y a une autre prophétie qui est donnée. Chapitre 11, verset 1. Ésaïe 11, 1. Là, Ésaïe fait un bond dans le temps. Dans les prophéties, c'est souvent le cas, il y a des bonds assez mystérieux. Tu arrives à placer ces choses-là simplement lorsqu'elles s'accomplissent bien souvent. Ésaïe 1, 11-1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, père de David, de la descendance de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Ce texte prophétique-là, comme plusieurs des textes dans le livre d'Ésaïe, ce sont des textes qui nous parlent du Messie qui devait venir. Ce sont des textes qui nous annoncent la venue de Jésus-Christ. Et on voit ces choses-là s'accomplir dans les évangiles. Et si on avait le temps, on irait voir plusieurs prophéties dans Ésaïe. Je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec le texte d'Ésaïe, à aller lire Ésaïe 53 cette semaine. Prenez le temps de le lire au complet à plusieurs reprises pour voir à quel point ce texte-là est extraordinaire et mystérieusement annonce la venue du Christ, du Messie. Nous parle d'un Christ crucifié, d'accord? Mais ce texte-là est en train d'annoncer, fait un saut dans le temps et nous annonce la venue d'un Messie. Et regardez le verset 10, Ésaïe 11, 10. « En ce jour, le rejeton d'Ésaïe, ce Messie, ce Sauveur, sera là comme une bannière pour les nations, une bannière pour les peuples, je m'excuse, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Dieu avait annoncé par la bouche de ses prophètes qu'une reconstruction, un projet de réconciliation entre Dieu et les hommes, beaucoup plus grand que celui qui s'est opéré sous Néhémie, allait s'opérer un jour. Et qu'un jour, toutes les nations de la terre seraient invitées à se tourner vers Dieu. Les prophètes ont annoncé ça à plusieurs reprises. Qu'un jour, toutes les nations de la terre seraient bénies dans la descendance de David, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et voyez-vous, Jésus est venu. Jésus a opéré des miracles extraordinaires, mais le miracle par excellence qu'il a opéré, c'est celui de son sacrifice sur la croix, de sa mort sur la croix, afin de payer la rançon, le prix de nos péchés. Ce sacrifice-là avait été annoncé par tous les sacrifices de l'Ancien Testament, qui annonçaient un sacrifice parfait à venir un jour. Et Christ est venu, et le plus grand miracle qu'il a opéré, c'est cette mort sur la croix accomplissant les prophéties et sa résurrection qui s'en est suivie. Et à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu est offerte à tous les hommes de la terre. Tous les êtres humains sur la terre sont invités à revenir et à se réconcilier avec Dieu. Et nous sommes appelés, comme Église de Jésus-Christ, non pas à aller simplement chercher un peuple en exil, le peuple d'Israël, mais à aller vers toutes les nations de la terre et à les ramener à Dieu, à les ramener à Jésus-Christ. Voyez-vous, notre mandat n'est pas tellement différent de celui de Néhémie. Il est simplement beaucoup plus vaste que celui de Néhémie. Notre mandat à nous, ce n'est pas de ramener les gens à Jérusalem. Jérusalem, c'était la ville sainte où habitait Dieu. Son témoignage était là. Mais Jérusalem annonçait l'Église. Et pour ceux qui sont curieux cette semaine, allez lire la fin du livre de l'Apocalypse. Vous allez voir que Jérusalem, la Jérusalem céleste, c'est l'épouse, c'est l'Église. Notre mandat à nous, ce n'est pas de ramener les gens dans un lieu physique en Israël à Jérusalem. Notre mandat, c'est de les ramener à Christ, de leur annoncer la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ, de participer à leur reconstruction spirituelle par la grâce avec l'Évangile. Et chaque fois qu'une personne place sa confiance en Jésus-Christ, elle est intégrée automatiquement au corps de Christ, à l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait dans nos ministères, tout ce qu'on fait avec la bouffe pour tous, avec nos efforts d'évangélisation, lorsqu'on essaie de témoigner aux gens, nous sommes en train de poursuivre le mandat de Néhémie. Mais notre mandat est plus vaste. Frères et sœurs, ma prière en terminant cette série-là, c'est que Dieu nous donne un cœur comme celui de Néhémie, pour que nous puissions être bouleversés par les milliers d'âmes autour de nous, 380 000 personnes qui habitent à Longueuil, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, nous dit l'Éternel dans le livre de Jonas. Ma prière, c'est que Dieu nous donne un cœur comme celui de Néhémie pour qu'on puisse se tourner vers les âmes et avoir la compassion que Néhémie avait. La semaine prochaine, on commence la série du livre de Jonas et on va voir ensemble la compassion de Dieu pour les âmes. Pour votre âme, pour la mienne et pour celle des âmes autour de nous. Que Dieu nous donne un cœur comme celui de Néhémie. On va prier ensemble. Seigneur, j'ai été profondément édifié par cet homme d'action. Encore une fois, tu m'émerveilles, Seigneur, et tu ébranles mes préjugés. Parce qu'avec Néhémie, j'ai un homme spirituel et j'ai un homme d'action, Seigneur. Avec Néhémie, j'ai un homme qui sait pleurer, qui sait prier, qui sait se mettre à genoux et qui sait passer à l'action, Seigneur. Avec Néhémie, j'ai un cœur qui sait être bouleversé comme ton cœur, Jésus, lorsque tu pleuras sur Jérusalem, Seigneur. Comme ton cœur, ô Dieu, lorsque tu considères Ninive, lorsque tu considères Longueuil, lorsque tu considères les âmes qui périssent, Seigneur. Et avec Néhémie, j'ai découvert un cœur qui est prêt à tout sacrifier, qui est prêt à assumer ses responsabilités, qui est prêt à conduire ses reconstructions, qui est prêt à être généreux dans le processus. Un cœur qui cherche premièrement à te plaire, Seigneur, et à prendre soin des âmes que tu lui confies. Seigneur, peux-tu dans ta grâce nous accorder un cœur comme celui de Néhémie? Seigneur, je te prie de relever ceux dans cette assemblée qui souffrent actuellement, qui sont prostrés, assis dans leurs ruines et qui ont besoin que tu les touches du doigt de ta grâce pour réveiller leur âme, réveiller leur cœur, Seigneur, et leur donner le courage, la force d'aller avec larmes dans la prière des semaines et des semaines durant, Seigneur. Pour trouver là, dans la prière et dans ta parole, la force en toi pour se lever et reconstruire. Merci, Seigneur, pour ces hommes qui sont des modèles pour nous. Tiens et conduis-nous dans notre prochain pas, notre prochaine étape, Seigneur. Aide-nous à tourner les regards vers cette ville immense et à ne pas être écrasés par le mandat qui est devant nous, Seigneur, mais simplement à entendre ton cœur, la compassion qu'il y a sur ton cœur pour les âmes, Seigneur. Et envoie-nous, envoie-nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.